source de vie et de mort. L'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit.
Avril 1999. Une journée qui ne sera pas comme les autres pour la petite communauté de la Malbaie. Située dans la région de Charlevoix, sur la rive nord du Saint-Laurent, ce village va bientôt connaître des heures sombres. C'est à une centaine de kilomètres de route au sud-ouest de la Malbaie, dans le port de la ville de Québec, que commence notre histoire. Dans le port de Québec, la plateforme de forage Spirit of Columbus est à quai. Le chantier naval Davy de Lévis y procède aux derniers préparatifs en vue de son déploiement en haute mer. Tôt en journée, un ouvrier remarque un objet flottant tout près de la plateforme. Il s'agit d'un corps qui a dérivé contre la plateforme et qui s'y est immobilisé. La plateforme n'est qu'à une trentaine de mètres de l'entrée du port et le courant du fleuve pourrait emporter le corps.
À l'époque, j'occupais la position d'enquêteur au crime contre la personne de la Sûreté du Québec. Vers 7h30, un appel est logé au quartier général de la Sûreté du Québec à l'effet que le corps d'une dame reposait à l'eau dans le port de Québec.
Les premiers policiers arrivent sur les lieux vers 8h05.
Donc, on regarde la disposition du corps à l'eau, comment c'est, et on envisage la façon de le sortir de l'eau. Donc, la décision est prise de concert avec le coroner pour sortir le corps avec les services des employés de la plateforme.
Une fois le corps sorti de l'eau, il est déposé sur le quai et examiné de plus près. Le technicien en identité judiciaire, André Carani, photographie le corps et les lieux.
Le corps était à fond de décomposition. On pouvait dire qu'il y avait peut-être 24 heures qui était dans l'eau. Là. Il n'y avait rien de spécifique là, sur le, à part les ecchymoses, les marques qu'on pouvait constater là, à première abord. Mais il n'y avait rien de. Pour dire là, que ça faisait énormément longtemps que le corps était dans l'eau.
Une fois l'inventaire photographique réalisé, on procède alors à un premier examen du corps.
On s'aperçoit qu'il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années. Elle est habillée d'un vêtement sport. Elle porte de certains bijoux et elle a une présence d'ecchymose au visage. Elle a le visage tuméfié. Donc, on décide d'emmener le corps à la morgue de Québec, ou qu'on va pouvoir procéder à une vérification du corps. Ça va nous permettre de fouiller, voir si elle a sur elle des cartes d'identité, qu'on puisse procéder à une identification.
Une fois à la morgue, le coroner et André Carani entreprennent un examen plus précis en ayant soin de ne pas contaminer la dépouille d'aucune manière.
Le technicien André Carani découvre certains bijoux comme une montre, des joncs au doigt, un porte-clé qui provient de Mazda Charlevoix à Baie-Saint-Paul.
Pour toute pièce d'identité, les policiers ne disposent que d'un trousseau de clés retrouvées sur le corps. Aussi mince soit-elle, cette simple piste suffit toutefois aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ils se tournent vers le Centre de renseignement policier du Québec, le CRPQ. Cette base de données est constamment consultée et alimentée par les corps policiers du Québec. Des milliers d'informations y sont consignées chaque jour. De la simple contravention à la disparition de personnes jusqu'au meurtre le plus crapuleux.
je fais une demande à notre analyste Daniel Hamel afin de vérifier avec la correspondance de la personne trouvée, c'est-à-dire le vestimentaire qu'elle a sur elle, la grandeur, la physionomie, voir si dans notre système, s'il n'y a pas une dame disparue qui correspond au corps qu'on vient de trouver dans le port de Québec. Et le résultat est négatif, on n'est pas capable d'identifier ce corps-là. Donc, il est décidé, de concert avec le coroner, de transporter le corps à la morgue, à la salle d'autopsie de Montréal pour une autopsie judiciaire qui va se faire le lendemain.
22 avril, 9h, Montréal. L'autopsie révèle un fait étonnant.
Lors de l'autopsie, on peut déterminer que la personne n'est pas décédée depuis longtemps. On parle de 24-48 heures maximum que le corps aurait pu séjourner à l'eau. Et suite à ces vérifications sur le corps, effectivement, il constate qu'il y a plusieurs ecchymoses sur le corps. Donc, la victime a été battue avant sa mort. Et il constate aussi qu'elle est morte par strangulation parce que certains signes d'évidence de cassure de vertèbres et des os de l'œsophage. Donc, on est face à un meurtre présentement et la victime n'est toujours pas identifiée.
Plus tard en journée du 22 avril, dans la communauté de la Malbaie au nord-est de Québec, la police municipale locale reçoit un appel de la fille d'une résidente qui désire rencontrer un agent de la paix.
C'est en début de chiffre, un peu après 16h30, je me rends à un domicile, rencontrer trois membres de la même famille. Ce qu'ils voulaient m'informer, c'était la disparition de leur mère qui était absente de domicile.
Mais tout de même, l'agent Tremblay procède à une fouille sommaire du domicile de Lucette Boily en compagnie d'une de ses filles.
J'ai demandé de visiter la maison, toutes les pièces de la maison, incluant le sous-sol, un petit garage, dans le but d'avoir des indices, peut-être quelque chose qui dirigerait vers une disparition.
L'agenda de Mme Boily révèle qu'elle devait rencontrer un certain Jacques Aymon le soir précédant sa disparition. L'agent Tremblay connaît l'homme en question.
Dans l'entrée du domicile, il y avait le véhicule, un Mazda protégé, quatre portes, un sedan. Qui, plus tard, avec une recherche au CRPQ, Centre d'enseignement policier, m'a permis de certifier que c'était le véhicule de Mme Boily.
La fille de Mme Boily explique qu'elle a trouvé la voiture de sa mère au quai Saint-Irénée, à quelques kilomètres de la Malbaie, où elle allait souvent marcher. À peu près à la même heure, à Québec, le sergent Morancy consulte le CRPQ. Tout de suite, le rapport de l'agent Tremblay de la Malbaie attire son attention. Le corps découvert le jour précédent dans le port de Québec serait-il celui de la disparue de la Malbaie? Au matin du 21 avril 1999, un groupe de travailleurs trouve une femme sans vie dans les eaux du port de Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec ne trouvent aucune pièce d'identité sur la victime. L'autopsie révèle qu'elle est morte étranglée. Le lendemain de cette découverte, une femme de la Malbaie, au nord-est de Québec, est portée disparue par ses proches. Entre-temps, grâce aux informations trouvées dans l'agenda de Mme Boily, l'agent Louis Tremblay décide de rencontrer Jacques Aymon, un individu bien connu dans la communauté de la Malbaie.
Monsieur Jacques Aymon, un résident de Charlevoix, fin trentaine, début quarantaine, journalier de métier. Il était connu de nos services pour ce qu'on peut appeler des dossiers mineurs. Des petits dossiers de fraude et des chicanes de famille et de voisins.
Toujours à la recherche d'une personne portée disparue, il pense qu'Aymon est probablement la dernière personne à avoir rencontré Mme Lucette Boily le soir du 20 avril.
Je patrouillais la ville. J'ai vu Jacques Aymon, qui était assis dans son véhicule. Il était sur la rue Saint-Étienne, face au fleuve. Il était avec des jumelles et scrutait la baie et le large. Et le temps que j'arrive à côté à sa gauche, avec mon véhicule, il s'est tourné, puis là, il a déposé les jumelles vitement. Je l'informe que j'ai affaire à lui, que je veux lui parler. Et tout de suite, il me répond « Pourquoi tu ne me parles pas ici? » J'ai dit « Garde, c'est un parc, il est 18h, 18h15, il y a un va-et-vient, il y a des enfants. J'aimerais mieux que tu viennes au bureau. » Et comme on se connaît, il n'a pas fait de blabla. Il a dit « Ben oui, je vais te suivre. »
L'agent Tremblay, accompagné de Jacques Aymon, arrive au poste de la Malbaie. Il s'installe pour discuter.
Il demande s'il connaît Lucette Boily, la personne disparue, pour m'assurer que je parle à bonne personne et que je me dirige vers les bons éléments. Et à sa réponse, c'est affirmatif. Oui, je connais Lucette Boily. Mais tout de suite, pourquoi? C'est venu tout de suite à sa réponse, pourquoi? Je lui ai dit que à partir d'aujourd'hui, Mme Boily était disparue de son domicile et que ses enfants m'avaient fait une plainte et que j'enquêtais sur une disparition.
Aymon est tendu, visiblement nerveux. Il affirme ne pas avoir vu Lucette Boily depuis 3 semaines. Lucette Boily est massothérapeute. Jacques Aymon est un de ses clients, comme en témoignaient les rendez-vous inscrits dans son agenda.
Il commence à être nerveux un peu. Il m'a dit « Tu m'accuses ». C'était frappant de la manière qu'il a dit ça. « Tu m'accuses ». Puis là, j'ai répondu bien tranquillement. Je l'ai rassuré. Je dis « Je ne t'accuse pas. J'ai besoin de savoir si tu l'as vu ces derniers jours parce que ton nom m'a été mentionné par les enfants. Et j'enquête. »
L'entrevue se poursuit pendant 20 minutes, au terme desquelles l'agent Tremblay est tiraillé par une intuition que tout n'est pas dit. Le comportement d'Aymon lui laisse penser qu'il y a anguille sous roche. Il le raccompagne à sa voiture tout en discutant.
Et on est le 22 avril, il est vêtu qu'un t-shirt, un jeans, et il est mouillé, il est essoufflé. J'ai demandé « Pourquoi t'es dans cet état-là? » Il me répond « Je suis à l'escalier et tout de suite, tu m'énerves. »
Malgré le temps frais de ce début de printemps 1999, Aymon est en sueur.
Je trouvais qu'il avait changé de comportement là, et trop vite physiquement. Son corps parlait. Là. Il transpirait en plein 22 avril, 6h, 6h15 le soir. Il n'est pas habillé. C'est pas si chaud que ça, le 22 avril à Charlevoix.
Peu avant la fin de son quart de travail, l'agent Tremblay reçoit un appel de 2 agents de la SQ qui patrouillent dans le secteur. Ils ont reçu une requête du quartier général à Québec. En consultant le Centre de renseignement policier du Québec, on a détecté une similitude.
Il y avait une très grande correspondance avec un corps retrouvé dans le port de Québec. Une personne de sexe féminin, l'âge tout, une dame de plus ou moins 55-60 ans. Il y avait un indice qui pouvait... amené vers cette personne, il y avait sur le corps de la dame, il y avait une clé de véhicule de marque Mazda.
Le lendemain matin, l'agent Tremblay reçoit la visite de l'équipe du sergent Morancy, qui est venu de Québec pour poursuivre son enquête sur la victime du port de Québec. Tremblay raconte en détail sa rencontre avec la famille Boily et surtout son entrevue avec Jacques Aymon. Après le briefing, l'agent Tremblay amène les enquêteurs de la Sûreté du Québec rencontrer les proches de Mme Boily. Le sergent Morancy veut savoir si le corps repêché à Québec est bien celui de Lucette Boily.
On s'est stationné dans l'entrée de la victime. Il y avait une fille de la victime qui était dans la maison, en pensant qu'on venait donner des détails et tout ça. On tournait à l'entour du véhicule, on regardait, ça correspond pas mal. C'est un véhicule local, Mazda Charlevoix. Richard Morancy a profité de frapper à la porte pendant que le technicien tentait de déverrouiller le coffre. Le technicien en scène de crime a pris la clé, il a entré dans la serrure de la valise et il a en tournant la valise à... verrouillé. Quand le coffre s'est ouvert, on a conclu que ça déboulait et qu'on allait vers un homicide. C'était 100%.
Même si on a un match qui semble positif entre notre enregistrement qu'on a fait et l'enregistrement du policier Louis Tremblay. J'exhibe à la fille de Mme Boilly les bijoux et le trousseau de clé qu'elle porte sur elle. Et la fille me confirme qu'effectivement, ça appartient à sa mère, soit Mme Lucette Boilly.
La famille de la victime confirme que Lucette Boilly avait bel et bien rendez-vous avec Jacques Aymon le soir où elle est disparue. Cette contradiction avec la version d'Aymon, qui affirme ne pas avoir vu Mme Boilly depuis 3 semaines, ainsi que son malaise apparent pendant l'entrevue du soir précédent, pousse le sergent Morency à s'attarder à ce suspect.
Donc, je rencontre la fille de Mme Boilly. Elle me fait part de certaines révélations, entre autres que le 12 avril, elle prenait une marche avec sa mère et que sa mère lui signale que dernièrement, il y a un individu qu'elle connaît qui lui a remis une enveloppe pouvant contenir des billets de banque pour au moins 35 000 $. Et pourquoi que Jacques Aymon lui avait donné cet argent-là? Il lui disait avoir hérité de cet argent-là, que ça lui occasionnait des problèmes de couple, que sa conjointe dépensait trop d'argent, puis tant qu'à avoir des problèmes, il voulait en faire bénéficier un autre. Il avait mis Mme Boilly en garde de ne pas ouvrir l'enveloppe immédiatement, d'attendre le prochain rendez-vous. Mme Boilly était curieuse et elle a ouvert cette enveloppe-là, puis c'était pas des billets de banque, c'était des découpures de magazines de la même grandeur que des billets de banque.
Cette histoire de faux billets, d'enveloppes et d'héritage ne satisfait pas les enquêteurs. Le sergent Morency n'a que les dires de la fille de la victime comme explication, mais la théorie d'une fraude commence à se préciser.
La fille de Lucette Boilly me signale également que le soir du 20 avril, peu de temps avant sa disparition, elle était avec sa mère. Et sa mère l'informe qu'elle sera à un rendez-vous au quai de Saint-Irénée, rencontrer l'individu qui lui a remis l'enveloppe. La fille de Mme Boilly lui suggère de ne pas se rendre à ce rendez-vous-là. Elle dit « C'est de la foutaise, va pas à cette rencontre-là, c'est un fou, va pas là. » Et Mme Boilly, elle dit « Non, elle dit, je vais y aller, je vais quand même me faire plaisir. » Lui dire qu'il rit de moi, puis qu'est-ce qu'il m'a remis, c'est de la foutaise.
Malgré les mises en garde de sa fille, le soir du 20 avril, la victime va tout de même à la rencontre du suspect à quelques kilomètres de la Malbaie, au quai Saint-Irénée.
Nous nous rendons au quai de Saint-Irénée dans le but de faire la tournée des voisins qui restent à proximité du quai, afin de pouvoir identifier des personnes qui auraient pu voir soit Mme Boilly ou M. Aymon au quai de Saint-Irénée le 20 avril, ou tout au plus leur véhicule. Et nous rencontrons une résidente qui reste face au quai, qui nous dit que ce soir-là, elle a aperçu un véhicule arrivé sur le quai, et peu de temps après, un autre véhicule se stationnait en parallèle à ce véhicule-là. Une personne d'un des véhicules est sortie pour rejoindre l'autre et partir ensemble. Un fait particulier qu'elle remarque, c'est que la personne qui sort d'un véhicule pour aller s'asseoir du côté passager dans l'autre porte un imperméable de couleur jaune. Et on le sait, Mme Boilly est partie avec un coat jaune.
Le cumul des faits dans cette enquête amène de plus en plus les policiers à considérer Jacques Aymon comme leur principal suspect.
Notre inquiétude, c'est de perdre des éléments d'enquête qui pourraient se retrouver dans le véhicule du suspect.
Le 24 avril, le sergent Morency obtient 2 mandats de perquisition. Un premier pour l'automobile du suspect, une Oldsmobile 4 portes, et l'autre pour sa résidence.
Le 25 avril, on perquisitionne le logement de M. Aymon. Son véhicule est emmené au poste de la Sûreté du Québec de Malbaie et le suspect y est dirigé vers la Caisse générale de Québec pour interrogatoire.
2 autres détectives sont chargés de l'interrogatoire d'Aymon. Selon la loi, ils ont le droit de garder Aymon pendant 24 heures avant de porter des accusations. Sans quoi, au-delà de ce délai, ils devront lui rendre sa liberté. De son côté, le technicien André Carani commence l'examen de la voiture démon au garage du poste de la Sûreté du Québec de la Malbaie.
Ce qu'on cherche, c'est la relation avec la victime. Y a-t-il des traces, des marques spécifiques dans le véhicule? As-tu été dans ce véhicule-là? Qu'il y a des empreintes du suspect, c'est son véhicule, ça n'a aucune valeur. La seule chose qui est importante, c'est de trouver une empreinte qui correspond à la victime. Dans ce cas-là, on avait fait une recherche à la poudre noire pour trouver des empreintes ou des traces de sang.
Pendant que Carani s'affaire sur le véhicule démon, celui-ci est soumis à un interrogatoire serré au quartier général de la SQ, à Québec.
L'entrevue avec le suspect a commencé vers les midi. 3h30 plus tard, on a fait ce qu'on appelle une alternance, c'est-à-dire que mon partenaire a pris ma place et je suis allé dans la salle de surveillance pour continuer à suivre le déroulement de l'entrevue. Mon partenaire a travaillé avec l'individu pendant environ 1h30. On était de plus en plus convaincus qu'on avait affaire à un suspect et non pas simplement à une personne qui était tout simplement en relation avec la victime.
Plus l'interrogatoire progresse et plus cette intuition qu'ils ont devant eux le meurtrier de Lucette Boilly se précise.
Lorsque les questions étaient très incriminantes, il refusait de répondre et finalement il a demandé par là son avocat ce qu'on lui a accordé. On l'a installé dans une salle où il a pu avoir une conversation privilégiée avec son avocat, une conversation confidentielle. Par la suite, lorsque ça a été terminé, on l'a ramené dans la salle et on a à nouveau reparti l'interrogatoire.
Pendant ce temps, à la Malbaie, l'automobile démon résiste toujours aux efforts du technicien en identité judiciaire, André Carani. En dernier recours, il décide d'utiliser une méthode radicale. La vieille Osmobile cache-t-elle la preuve que Lucette Boilly a trouvé la mort? Le 21 avril, un groupe de travailleurs retrouve une femme sans vie dans les eaux du port de Québec. L'autopsie révèle que Lucette Boilly est morte étranglée. Une de ses connaissances, Jacques Aymon, est le principal suspect. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils ont trouvé leur homme. Il leur reste à mettre à jour la preuve qui l'incriminerait. L'expertise du technicien André Carani sur les objets recueillis à l'appartement démon, ainsi que sur ceux trouvés dans son véhicule, se poursuit pendant plusieurs jours. En fait, plus d'une centaine d'objets divers ont été saisis. Et tous font l'objet d'une analyse systématique.
Dans ce véhicule-là, il y avait énormément de choses, des papiers, des bouteilles, des cannes de lubrifiants, des Kleenex, des revues. Dans tout le véhicule, à l'arrière comme à l'intérieur, à l'avant, sur les sièges, un ramassis de toutes sortes de choses.
Malheureusement, les efforts d'André Carani ne produisent aucun résultat. En dernier recours, il décide d'utiliser un procédé assez radical.
La cyanocolate, c'est dans le fond, c'est la, communément appelée la chrysiloup. Puis le cyanoacrylate, les vapeurs de ça, lorsqu'on le chauffe, va être avec un certain degré d'humidité, ça va adhérer aux empreintes. Sauf que pour être capable des révélés comme il faut, on peut mettre ils appellent ça un brillant. C'est un liquide qui est luminescent et ça nous permet de le polylight ou un laser de révéler d'être capable de la photographier plus facilement.
Le cyanoacrylate est très nocif pour le véhicule. Une fois l'expertise terminée, l'automobile se retrouve souvent irrémédiablement abîmée. Lorsqu'un véhicule est détruit de la sorte, la Sûreté du Québec est obligée de rembourser la valeur du véhicule à son propriétaire. Mais quand il s'agit de mettre à jour une preuve qui pourrait faire condamner un meurtrier, la décision va de soi. Malgré toutes les ressources et les efforts investis sur ses expertises, le technicien Carani ne produit aucun élément de preuve qui incrimine Aymon. Enfin, l'interrogatoire fleuve d'Aymon au quartier général de la SQ à Québec n'apporte lui non plus rien de nouveau. Après 10 heures passées à le questionner tour à tour, les enquêteurs sont dans l'impasse.
Il s'est mis à pleurer. Et puis, on voyait qu'il subissait énormément de pression, mais c'était la pression de vivre avec ce qu'il avait fait. Mais on n'avait pas d'aveu, on avait seulement notre opinion puis notre, ce qu'on va appeler notre feeling d'enquêteur à ce moment-là.
Aymon est au bord de l'épuisement. Il s'est refermé sur lui-même dans le mutisme le plus complet. Le sergent Morancy craint que la poursuite de l'interrogatoire ne soit perçue comme du harcèlement par un jury. On décide de libérer le suspect. La réaction d'Aymon est stupéfiante. À cette nouvelle, en un clin d'œil, l'homme accablé est remplacé par celui qui voit une lueur d'espoir au bout du tunnel. Le détective Pierre Lamontagne est tellement surpris de ce changement qu'il ne peut contenir une dernière remarque à l'endroit d'Aymon au moment de son départ.
On l'a avisé clairement qu'on savait qu'il était impliqué dans le décès de la victime, qu'on avait respecté ses droits, mais que maintenant on allait continuer notre enquête et qu'on allait sûrement revenir le voir.
La libération d'Aymon sans aveu oblige les enquêteurs à poursuivre d'autres pistes. Dans les jours qui suivent, des dizaines de témoins sont rencontrés.
C'est ainsi qu'on apprend que M. Aymon, c'est un fraudeur. Il a manipulé plusieurs personnes dans le village de la Malbaie et dans les environs de Malbaie. Et l'histoire qui est revenue le plus souvent, c'est qu'il mentionnait à des gens qui investissaient dans des produits pharmaceutiques, puis ça lui rapportait beaucoup d'argent. Et comme bon fraudeur, il a réussi à influencer les gens à investir dans son entreprise sans prospectus, sans rien, juste par ses belles paroles.
Le sergent Morancy décide donc d'examiner les relevés bancaires de Lucette Boilly à la recherche de transactions importantes entre Lucette et Aymon. Son hypothèse de travail, Madame Boilly, aurait-elle été victime d'une arnaque qui aurait mal tourné?
Nous rencontrons même deux témoins qui nous mentionnent également qu'ils avaient investi dans la compagnie bidon de Jacques Aymon. Les mois passèrent, puis à un moment donné, une de ces personnes-là, on a rencontré Jacques Aymon, il lui a mentionné, écoute bien, tu me donnes mon argent. Et Jacques Aymon s'était fâché après cet individu-là. Il l'a pris à gorge, il l'a levé de terre, puis il a dit « Parle-moi plus jamais de cet argent-là. » Et on sait que Mme Boilly a été étranglée avec force.
Les menaces d'Aymon fonctionnent. Et par crainte de représailles, les deux hommes disent adieu à leur investissement. Par ailleurs, le sergent Morancy entend vérifier une autre hypothèse qui pourrait expliquer la découverte du corps dans le port de Québec. Il pense qu'Aymon aurait peut-être tué Boilly près de la Malbaie, jeté le corps dans le fleuve Saint-Laurent et que les courants auraient fait remonter le corps jusqu'à Québec. Pour cette expertise, le sergent Morancy fait appel à la garde côtière canadienne basée à Québec. Hubert Desgagnés, du Centre de sauvetage maritime, est chargé d'aider la SQ dans cette requête.
La réponse allait de soi que c'est impossible parce que le courant dans un fleuve ou une rivière est toujours plus fort se dirigeant vers son embouchure. Et même si, oui, il y a des marées dans le secteur concerné, le courant ne remonte jamais vers l'amont aussi loin qu'il va descendre vers l'aval, donc vers l'embouchure. Mais le policier, forcément, désirait des explications qui pourraient convaincre un juge ou un coroner. Et hors de tout doute que non, c'est impossible qu'un corps puisse avoir dérivé vers l'amont. Et on a demandé de faire un scénario de dérive pour évaluer si le corps émergeait dans le fleuve, à quel endroit il aurait été en réalité au moment de sa découverte.
la garde côtière canadienne utilise CANSARP, un logiciel qui tire profit de plusieurs bases de données pour projeter la dérive d'un objet sur un plan d'eau.
Le fleuve en lui-même a son propre courant normal qui varie selon le débit de la saison. Et avec les données de vent d'Environnement Canada, pour ajouter ou soustraire un certain courant selon l'angle du vent et la force du vent, un courant supplémentaire, donc une constante supplémentaire qui peut affecter la résultante en bout de course. Et ça peut nous donner à ce moment-là, pour un accident donné, qu'un corps ou un objet se retrouverait à 2, 6, 12 000 plus loin selon le scénario.
Très rapidement, on réalise que le Saint-Laurent ne cache pas de courant suspect qui aurait pu ramener le corps de Lucette Boily vers Québec en quelques heures. Bien au contraire.
Alors, on a tout simplement établi le fil des courants, des marées, tout ce qui nous a donné une dérive approximative, ni plus ni moins, vers la région de Rimouski. Donc, complètement à l'opposé de Québec.
Donc, pour que le corps de la victime soit découvert dans le port de Québec, il fallait qu'il soit jeté à proximité. Entre-temps, le sergent Morancy va de l'avant avec l'hypothèse d'une arnaque démon sur Lucette Boily. Il obtient les relevés bancaires. Ils ne contiennent aucune trace de transaction entre la victime et le suspect. Par contre, les policiers découvrent une information étonnante.
On s'aperçoit que la journée qu'on découvre le corps de la victime dans le port de Québec, c'est qu'il y a 3 transactions qui sont faites avec la carte de guichet automatique de la victime. Une première aux alentours de 8 heures le matin au restaurant Le Petit Régal de Baie-Saint-Paul et 2 autres au guichet automatique de Beaupré, guichet automatique de la Banque nationale.
La famille de Lucette Boily explique aux policiers que leur mère ne possède qu'une seule carte bancaire, qu'elle portait toujours sur elle, dans son sac à main.
Un fait particulier, c'est que Mme Boily avait noté son numéro de NIP de sa carte sur un bout de papier qu'elle laissait dans sa sacoche avec la carte de guichet automatique.
Le sergent Morancy dépêche une équipe d'enquêteurs au restaurant de Baie-Saint-Paul et une autre à la banque de Beaupré. Il tient enfin une piste solide qui pourrait le mener directement au tueur.
On se dirige au restaurant Le Petit Régal de Baie-Saint-Paul pour tenter d'identifier les clients réguliers. Nous rencontrons plusieurs de ces clients-là qui nous affirment qu'effectivement, ce matin-là, ils ont vu un couple arriver qui n'a pas l'habitude de venir déjeuner et ils font une description physique du monsieur en question. Grand, costaud, avec un Oldsmobile 4 portes et une dame qui l'accompagnait. Et plusieurs clients nous confirment le tout.
Mais la photo démon, dont se servent les policiers pour amener les clients du Petit Régal à l'identifier, a été tirée lors d'une arrestation antérieure, il y a plusieurs années.
On doit prendre une vieille photo que les archives de la police de Malbaie possèdent dans leur filière. Sans être sûr à 100 % qu'il s'agit de cette personne-là qu'ils ont vue le matin du 21 avril au restaurant, ils nous mentionnent que cette photo-là ressemble à la personne qu'ils ont vue le matin au Petit Régal venir déjeuner, qui n'était pas un client habituel.
Devant l'impossibilité des clients du Petit Régal de confirmer formellement l'identité démon sur la foi de la vieille photo, le sergent Morancy demande à un juge un mandat spécial.
J'ai une rencontre avec le procureur de la Couronne pour obtenir des mandats pour obliger soit le suspect et sa conjointe à vous suivre, procéder à une prise de photo et constituer un autre line-up photographique et de retourner éventuellement voir les clients du restaurant dans le but de voir si avec des nouvelles photos récentes, on est capable d'identifier formellement, cette fois-ci, M. Aymon.
15 jours après la découverte du corps de Lucette Boily, Jacques Aymon et sa partenaire sont interpellés et amenés au poste de la SQ à la Malbaie. Le sergent Morancy réussira-t-il avec une nouvelle photo à faire identifier formellement son suspect numéro 1? Le 21 avril 1999, on retrouve une femme sans vie dans les eaux du port de Québec. L'autopsie révèle qu'elle est morte étranglée. Elle s'appelle Lucette Boilly. Fraudeur notoire, Jacques Aymon est le suspect numéro 1. Les policiers apprennent qu'une carte bancaire de la victime a été utilisée après sa mort. En retraçant là où la carte a servi, ils essaient de confirmer qu'Aymon est celui qui l'a utilisé. Aymon et sa conjointe sont amenés au poste de la SQ de la Malbaie pour une séance de photos. Pendant que le technicien en identité judiciaire procède aux photographies avec Aymon, dans une autre pièce, le sergent Morancy s'entretient avec la partenaire du suspect.
On lui pose des questions sur le 21 avril. Qu'est-ce qu'elle a fait dans cette journée-là? Si elle se répète, qu'est-ce qu'elle avait fait avec son conjoint? Elle nous dit oui, elle dit le 21 avril avec Jacques. On est parti très de bonne heure le matin. On s'est dirigé à Baie-Saint-Paul. On est arrêté au restaurant Le Petit Régal. On a déjeuné à cet endroit-là. Et c'est Jacques qui a payé la facture. Ensuite, elle mentionne qu'ils se sont dirigés à Beaupré. Ils sont arrêtés dans un petit centre d'achat et son conjoint lui a dit avoir un appel téléphonique à faire. Elle nous identifie dans quel coin du centre d'achat qu'elle est rentrée. Ça correspond à la porte d'entrée du guichet automatique.
Enfin, les enquêteurs possèdent assez de preuves pour arrêter Aymon pour meurtre. Aymon est conduit encore une fois au quartier général de la SQ, à Québec, pour un deuxième interrogatoire. Là, Aymon est confronté aux révélations de sa partenaire.
D'abord, premièrement, il voulait parler à sa conjointe. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas lui parler, mais on lui a montré la déclaration qu'elle nous avait donnée. Après qu'il ait pris connaissance de cette déclaration-là, il s'est mis à genoux dans la salle d'entrevue, puis là, il demandait pardon. Puis là, il voulait voir un prêtre. Puis là, on lui expliquait que c'était pas la procédure. Que... Et là, tranquillement, il s'est réinstallé. Le suspect nous a donné une version des incidents dans lequel il confirmait ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il était impliqué directement dans la mort de la victime, que le crime avait eu lieu dans la région de la Malbaie, que par la suite, il avait transporté le corps jusqu'à Québec, où il l'avait jeté près du Vieux-Port.
Suite aux aveux en règle d'Aymon, le sergent Morancy l'accompagne pour un voir-dire, une procédure courante dans le cas d'aveu. On refait le trajet entre le lieu du meurtre et le port de Québec. Ils se rendent d'abord à Cap-aux-Oies, à quelques kilomètres de la Malbaie, là où Aymon avoue avoir étranglé Lucette Boilly.
Nous arrêtons dans un premier temps au provisoire de Beaupré, où ce que Jacques Aymon nous mentionne avoir jeté les effets de la victime, soit le code jaune et sa bourse dans un conteneur. Ensuite, nous nous dirigeons à la plage de Cap-aux-Oies. Et là, Jacques Aymon nous identifie l'endroit où il dit avoir tombé avec Lucette Boilly. Et que la chute a provoqué son décès. Il y a un fait particulier quand il nous indique l'endroit où il y a eu le tiraillement avec la victime. Jacques Aymon devient malade et restitue à l'endroit où ce qui nous indique avoir tué Lucette Boilly.
Grâce aux aveux d'Aymon, complétés par les éléments de l'enquête, le sergent Morancy est à même de reconstituer les événements de cette tragique journée.
Ensuite, il dit avoir stationné son véhicule. Et qui a marché sur le bord de la plage. Il a assis la victime à l'avant dans sa voiture, attachée pour qu'elle tombe. Il a voyagé ainsi de Cap-aux-Oies au quai de Baie-Saint-Paul. Et c'est là qu'il a décidé de mettre le corps dans le coffre. Donc, au quai de Baie-Saint-Paul, il la met dans le coffre et se dirige vers Québec. Il rentre dans l'environnement du port de Québec, mais il se rend en bordure du quai, pas loin de ce où se trouve la plateforme de forage Spirit of Columbus. Et à son opposé, il jette le corps à l'eau et repart par la suite à Baie-Saint-Paul.
Avec la confession des monts, les policiers sont en mesure de retracer avec assez d'exactitude ses agissements après qu'ils se soient débarrassés du corps.
Le matin, quand il est revenu à la Malbaie, il a lavé son véhicule au complet à 6 heures du matin. Donc, il a passé l'aspirateur, il l'a lavé intérieur, extérieur. Donc, nous retournons voir les voisins à savoir s'ils n'ont pas aperçu ça le matin, Jacques Aymon, nettoyer son véhicule. Et encore là, c'était négatif. À personne, à cette heure-là, qui s'est aperçu que Jacques Aymon avait nettoyé son véhicule. Ça peut venir expliquer le fait aussi qu'on ne trouve pas aucun élément dans le véhicule quand on fait nos expertises. Jacques Aymon a pris bien soin de tout nettoyer son véhicule.
Après quelques heures d'un sommeil qu'on imagine agité, Aymon retourne à Québec avec sa partenaire pour une sortie de magasinage. C'est à ce moment qu'il utilise la carte bancaire qu'il a fait condamner. Au terme du procès, Aymon est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il reçoit une sentence à vie avec libération après 12 ans. Mais l'avocate d'Aymon prétend que ses aveux ont été obtenus illégalement. Dans un revirement peu commun, elle obtient une libération sous caution pour son client pendant que la cause est portée en appel. Un vice de procédure pourrait-il faire en sorte que le tueur échappe à la justice? Fin avril 1999, une femme sans vie est repêchée des eaux du port de Québec. L'autopsie révèle qu'elle est morte étranglée. Elle s'appelle Lucette Boily et avait été portée disparue par sa famille de la Malbaie. Jacques Aymon, une connaissance de la victime et un fraudeur notoire, est le suspect numéro un. Les policiers découvrent les commerces où une carte bancaire de la victime a servi après sa mort. Par pur hasard, la conjointe d'Aymon confirme que celui-ci a utilisé la carte à deux reprises. C'est la preuve qui vaut à Aymon sa sentence. Son avocat en appelle du verdict et dans un rebondissement de dernière minute, Aymon obtient sa libération sous caution en attente de l'appel. Pendant sa libération, Aymon fait l'erreur de commettre un autre délit. Et cette fois-ci, la peine d'emprisonnement auquel il fait face est de 25 ans ferme. Comme il a violé les conditions de sa libération sous caution, il est incarcéré à Orsainville, en banlieue de Québec. Laissé à lui-même, certain qu'il finira ses jours sous verrou, le 30 octobre 2000, Aymon est retrouvé pendu dans sa cellule.
Ils ne vont pas certifier, hors de tout doute, le mobile du crime. Par contre, avec toutes les révélations qu'on a eues à gauche et à droite de témoins, nous croyons fermement que le mobile, c'est la fraude. Nous croyons que ce soir-là, Mme Boily a visé d'une façon formelle, Jacques Aymon, que sa petite histoire, là, c'est fini, puis qu'elle voulait avoir son argent, puis que Jacques Aymon, ça l'a peut-être choqué, comme ça l'a déjà choqué auprès de d'autres investisseurs qui voulaient récupérer leur argent.
En laissant le corps sans vie de Lucette Boily dans les eaux du port de Québec, Jacques Aymon pensait probablement que le fleuve Saint-Laurent emporterait la dépouille et la ferait disparaître à jamais. il pensait sûrement que Marée et Courant seraient son allié dans un crime parfait. Mais encore une fois, dans cette histoire, comme dans tant d'autres, l'insaisissable nature de l'eau a déjoué l'intention meurtrière.